Santé 2.0, e-santé, des expressions qu'on entend souvent, mais que recouvre-t-elle? Doit-on s'en méfier ou s'en réjouir? La semaine dernière, le Tour de France du numérique en santé est passé par Toulouse et Montpellier pour présenter la politique nationale sur ce domaine, le numérique en santé. On en parle avec vous, Jérôme Falerne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable e-santé et transformation numérique à l'ARS Occitanie, ARS Agence Régionale de Santé. Alors tout de suite, il va falloir se définir les termes. Quand on parle de e-santé ou de santé numérique, on parle de quoi exactement ?
Alors on parle en fait de quelque chose que nous connaissons bien dans notre vie de tous les jours sur d'autres domaines. C'est l'irruption du numérique, de ces technologies de l'information sur le domaine de la santé avec une concomitance entre un moment où le système de santé doit un petit peu se transformer pour pouvoir rester très efficace au service des Français et le moment où cette technologie est disponible, permet de rapprocher le médecin de son patient, permet aux médecins et aux professionnels de santé de mieux se coordonner, de mieux partager et échanger de l'information entre eux.
Et de façon très concrète, alors c'est quoi ?
De façon très concrète, on peut par exemple parler de la télémédecine, qui est la pratique de la médecine à distance, qui est née en région il y a déjà une vingtaine d'années et qui se développe très fortement depuis 2-3 ans, avec notamment la capacité aujourd'hui pour tout patient de pouvoir consulter à travers des systèmes de visioconférence un médecin distant donc et d'être remboursé par la Sécurité sociale pour ce faire.
Ça, c'est quelque chose qui est déjà possible.
Ça, c'est quelque chose qui est déjà possible, qui est possible avec le remboursement depuis un an maintenant, qui se développe alors à un rythme, on va dire, assez, pour le moment, sporadique, mais qui va vraiment connaître une accélération, puisque, effectivement, les technologies, le haut débit qui est nécessaire, est en train de fortement se déployer, notamment dans notre région.
Et qu'est-ce qui justifie qu'on voit son médecin par webcam, ou je ne sais pas comment, quel dispositif informatique, et qu'on ne s'y rende pas ?
Alors, déjà, ce qu'il faut dire avant tout, c'est qu'on voit son médecin, le médecin traitant au sens de l'assurance maladie, qui est quelqu'un qui nous connaît et qui est capable de déterminer si, pour une consultation donnée, un motif de consultation donnée, il est possible de se voir à distance ou s'il a besoin de vous voir physiquement. Donc ça, c'est un premier élément important. Ensuite, effectivement, on peut imaginer dans un premier temps que le développement de cette nouvelle manière d'exercer la médecine va se faire sur des renouvellements d'ordonnances, des adaptations de posologie pour des malades chroniques, par exemple, ou tout simplement, effectivement, pour, on va dire, des choses assez tout venant. Il est aujourd'hui totalement exclu de poser un diagnostic sur une téléconsultation, puisque c'est le nom qu'a la manière de consulter à distance son médecin.
Alors moi, il m'est arrivé de prendre des rendez-vous chez le médecin pour moi, pour mes enfants. On m'a jamais proposé de le faire par webcam. Est-ce que c'est un public particulier ?
Il n'y a pas de limitation à un public particulier. Il y a bien évidemment les questions de l'inclusion numérique qui se posent, parce qu'effectivement, il est délicat de le proposer aujourd'hui à quelqu'un, soit qui n'a pas le haut débit, soit qui n'est pas, on va dire, un minimum.
Ça, c'est les limites de l'exercice,
voilà, ce sont les limites de l'exercice. Il y a, on va dire, les pouvoirs publics s'occupent aussi de ces questions d'inclusion numérique. On a des acteurs, notamment des acteurs associatifs, qui sont très, très impliqués sur le domaine en Occitanie. Pour autant, aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé a fait une étude sur la télémédecine et n'a pas identifié de limite d'exclusion, on va dire, à l'usage de la télémédecine d'un point de vue médical.
Et cette télémédecine, on l'imagine aisément, c'est une réponse au manque de médecins notamment ?
Alors, c'est une réponse, ça n'est pas la seule réponse. L'idée, tout d'abord, pour faire face au manque de médecins, c'est d'augmenter l'attractivité de l'exercice médical dans certains territoires. Donc, ça se fait à travers des modes d'exercice qui évoluent, de la mutualisation de moyens avec des professionnels, d'autres professionnels médicaux, des professionnels paramédicaux également. Donc, on a des petits noms, on va dire, un petit peu abscons pour tout ça. On appelle ça les communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, dans notre jargon. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un dispositif qui connaît pas mal de succès, qui nécessite aussi d'une certaine manière des systèmes d'information performants, non pas forcément pour soigner à distance là pour le coup, mais pour pouvoir partager de l'information.
Ce qu'on appelle de la santé numérique.
Voilà, ça aussi c'est de la e-santé, c'est de la santé numérique, c'est quelque chose on va dire qui est plus peut-être du domaine des logiciels pour les professionnels, mais aujourd'hui il y a aussi une mutation de la même manière qu'auparavant vous envoyiez des SMS on va dire pour communiquer avec votre entourage. aujourd'hui, vous utilisez des messageries qui vous permettent de faire passer plus facilement de l'image, de la vidéo, des sons. Donc, on peut, par exemple, prendre l'exemple de WhatsApp. Nous avons aujourd'hui une mutation sur les outils de travail de ces professionnels.
Donc, c'est une évolution, je pourrais résumer comme ça, une évolution normale de la santé, de même que le numérique est intervenu partout. Il intervient aussi en médecine et en santé. Et il se trouve que, par certains côtés, il apporte une réponse au manque de médecins, mais pas uniquement. On a bien compris ça. Hein.
Voilà. Il nous permet, on va dire que la concomitance avec les défis qui se posent à notre système de santé font qu'effectivement, les aspects positifs du numérique doivent pouvoir être utilisés pour continuer d'offrir un service de qualité et de proximité aux Français.
Ça doit pas faire peur du coup, parce que c'est vrai que ça nourrit beaucoup de fantasmes. On s'imagine télémédecine, e-santé, santé numérique, ça fait peur. On s'imagine se soigner par un smartphone. C'est pas ça en réalité dont il s'agit.
Alors, il faut pas avoir peur de deux aspects. Le premier, c'est la déshumanisation. Donc là, effectivement,
ça, c'est vrai.
À partir du moment où l'on reste pris en charge par des professionnels en proximité, où le numérique est mis au service de notre relation avec ces professionnels, ce premier risque est limité, on va dire. Le deuxième risque, c'est le risque sur les données. Puisqu'effectivement, dès lors que vous utilisez du numérique, des plateformes numériques, comme on dit, vous allez fournir des données et l'usage de ces données vous échappe un petit peu. Hein. Vous n'avez pas forcément toujours la main, quand bien même des règlements sont venus renforcer la protection de chaque citoyen. Donc, pour faire face à ça, il y a une réglementation en France qui est très restrictive sur l'usage des données de santé, y compris dans la manière dont elles sont hébergées. Elles ne peuvent pas être hébergées n'importe où. Et d'autre part, la nouvelle stratégie nationale nous amène encore plus, on va dire, de normes et de dispositifs de sécurité autour de l'usage des données, notamment dès lors qu'on va vouloir adresser des domaines comme la recherche médicale.
Et puisque vous êtes sur les menaces que nous pose cette e-santé, on en a parlé, mais il y a quand même l'inclusion numérique, parce que parmi ceux qui nous écoutent, par exemple, dans des zones éloignées de la 4 ou de la 5G, qui n'ont pas accès à Internet d'une part, et puis des personnes âgées aussi. Comment est-ce que vous les accompagnez?
Alors aujourd'hui, l'accompagnement est fait, on va dire, pas seulement sur le champ de la santé, il est fait sur l'accompagnement à l'inclusion numérique en général parce que effectivement, il y a beaucoup d'applications sur le numérique qui sont, on va dire, déjà dans les mœurs. Vous avez l'habitude de commander peut-être, mais certains d'entre nous ne sont pas en capacité de commander des choses, des biens sur Internet. Donc l'inclusion numérique aujourd'hui est une des compétences de la préfecture de région. Qui notamment a œuvré pour que l'association La Mêlée Numérique puisse être retenue et en ce moment même il y a une grande expérimentation qui a lieu en Occitanie qui est portée par cette association et à laquelle nous sommes très attentifs parce qu'effectivement ça vient alimenter
sur
finalement.
Sur quoi porte-t-elle? On va peut-être le rappeler à ceux qui nous écoutent.
Alors du coup là il s'agit d'une inclusion vis-à-vis de publics précaires éloignés aujourd'hui du numérique pour des raisons, on va dire, des accidents de la vie ou d'autres raisons.
Alors il y a un autre danger tout de même aussi, en tout cas c'est une question que pose cette e-santé, c'est est-ce qu'on peut parler aussi d'une forme d'ubérisation de la médecine? Je ne sais pas si c'est parce que je suis journaliste, mais je reçois énormément de nouvelles plateformes, nouvelles choses pour communiquer. Ça, c'est pas de l'ubérisation? Est-ce qu'on ne peut pas s'en méfier un petit peu?
Alors, on va parler d'éparpillement, parce qu'effectivement, le propre jusqu'à présent, on va dire, de la e-santé, c'est un très grand éparpillement des énergies et des dynamiques en France. Tout ça, c'est le constat qu'ont fait Dominique Pont et Laura Letourneau, qui portent au niveau du ministère la nouvelle stratégie nationale.
Qui sont venus donc
jeudi, voilà, à Montpellier et à Toulouse, qui ont pu rencontrer pas mal de personnes intéressées par le système de santé, pas seulement, on va dire, des spécialistes du numérique en santé. Le constat, cet éparpillement, l'objectif, c'est justement de faire en sorte que tous les dispositifs qui sont proposés dès aujourd'hui et qui vont continuer à l'être, qu'on parle là de d'applications sur son smartphone, d'objets connectés, tous ces outils ont la particularité de travailler indépendamment les uns des autres jusqu'à présent et vont tous, par exemple, recueillir votre identité en tant qu'usager
du système. Et ce sont des privés derrière?
Alors, ça peut être des acteurs privés, des acteurs publics. La particularité, finalement, de cet éparpillement, c'est qu'il est général. Et qu'aujourd'hui, la puissance publique, son rôle, c'est de ramener tout le monde dans la maison que représente le système de santé, sur la base de fondations solides, identifiant tous l'usager de la même manière, identifions tous le professionnel de santé de la même manière et soyons capables de ce fait de partager plus efficacement les données sans avoir à se poser systématiquement la question de est-ce que je parle du même patient que mon confrère. Si on prend l'exemple d'une personne âgée qui vit à son domicile, ça dépasse largement les professionnels de santé, puisque vous savez qu'aujourd'hui, pour son maintien à domicile, elle a besoin de prestations sociales, un portage de repas, une toilette, etc. Et que tout ça fait intervenir aussi bien l'infirmière qu'un aide-soignant, qu'un prestataire d'aide sociale.
Ça, c'est la stratégie dont vous a fait part, effectivement, le tour national la semaine dernière. De quoi elle veut se parer en rassemblant tout ce petit monde à la maison et...
L'idée, bien entendu, c'est de faire en sorte de pouvoir centraliser les données au service de l'usager, au service des professionnels qu'ils prennent en charge, tout en assurant que les données relatives à cette prise en charge ne vont pas être captées par des GAFA ou des grandes plateformes internet qui pourraient en faire un usage qui serait un petit peu contraire à l'esprit de notre système de santé. L'idée, c'est que les données qui sont ainsi captées puissent après, de manière anonymisée, aller servir ce qu'on appelle le Health Data Hub, alors un bien grand mot, pour finalement imaginer un grand entrepôt de données de prise en charge en France qui puisse servir la recherche médicale, les études épidémiologiques, etc.
Donc ceux qui nous écoutent doivent pouvoir être un petit peu rassurés quant à l'usage de leurs données. Alors on n'en a pas encore parlé, peut-être qu'il est quand même intéressant de faire un petit tour d'horizon sur l'Occitanie, puisque vous aviez votre rassemblement régional jeudi dernier. Ça représente quelle réalité rapidement en Occitanie? Vous avez des chiffres peut-être nous donner? Vous m'avez dit tout à l'heure, juste avant de venir à la radio, que l'Occitanie était tout de même pionnière, puisque c'est ici que la télémédecine a été inventée.
Alors oui, effectivement, pour la petite histoire, c'est effectivement à Toulouse que la télémédecine a été inventée, tout d'abord sur une application aujourd'hui encore en service, qui permet de soigner à distance les marins en mer. Donc c'est là, on est vraiment sur des difficultés d'accès aux soins qui sont comparables, voire au-delà de certaines de nos concitoyens occitans, avec un marin qui se fait mal en mer et un médecin qui est capable, depuis le SAMU de la Haute-Garonne, de lui venir en aide. Donc ça, c'est pour la petite histoire, c'était fin des années 80, début des années 90. Aujourd'hui, cette antériorité, le fait qu'après elle se soit développée dans la région Midi-Pyrénées, puis en région Languedoc-Roussillon, fait que nous avons alors un nombre d'actes de à peu près 100 000 actes de télémédecine qui sont réalisés par an, mais c'est à mettre au regard. Alors c'est un nombre qui est important au niveau national.
Au regard du nombre d'actes totaux.
Au regard, par exemple, si je vous donne une idée du nombre de consultations qui sont réalisées au CHU de Toulouse, uniquement au CHU de Toulouse, on est à plus de 800 000 par an.
D'accord.
Donc ça vous donne quand même une idée du fait que pour une région, 100 000 actes, c'est à la fois peu et beaucoup. C'est beaucoup comparé aux autres, mais c'est peu comparé à ce que ça va devenir
dans les
années
à venir. Beaucoup par rapport aux autres, nous sommes tout de même en pointe.
On est dans les 2-3 régions, effectivement, les mieux.
Avec des innovations techniques identifiées?
Pas mal d'entreprises, donc jeudi, ont pu venir présenter leurs innovations à la délégation nationale. Pas mal d'entreprises de la région, des dermatoscopes connectés, des dispositifs qui permettent de connaître le temps d'attente en temps réel au niveau des services d'urgence. On peut également parler de robots conversationnels qui permettent, pour des patients à domicile, de les rassurer et de faire un premier filtre sur les données recueillies avant de pouvoir donner la main aux professionnels de santé.
Merci beaucoup Jérôme Falerme pour cet éclairage. De fait, on y voit un petit peu plus clair. On a compris qu'il ne fallait pas forcément se méfier de cette e-santé, puisqu'il y a une stratégie derrière de rassembler tout ce qui se fait. Je rappelle que vous êtes le responsable, e-santé et transformation numérique à l'ARS Occitanie. Et à propos de l'événement dont nous parlions, ce rassemblement régional de la semaine dernière, il y a un site internet www.isante.gouv.fr/ Tour de France de la e-santé en Occitanie, Montpellier-Toulouse, où on pourra retrouver tout ce que vous vous êtes dit la semaine dernière. Merci à vous.
Merci beaucoup.